Jean-Claude, il faudrait une carafe d'eau et trois verres. Merci. Mesdames, Messieurs, la revue parlée. Pensez la littérature aujourd'hui 2. Nous avions eu, en décembre, Pierre Bourdieu et Michel Chailloux dans un premier temps. Cette deuxième étape, qu'est-ce qu'une vie, est donc menée par François Lejeune et Pierre Michon et animée. Menée, pourquoi ?
Philippe Lejeune.
Ah, j'ai dit Lejeune, excusez-moi. J'ai dit Pierre Lejeune et François. Bon, je reprends. Philippe Lejeune et Pierre Michon et menée par Jean-Pierre Salgas, auquel je passe la parole, avec toutes mes excuses pour ces lapsus. Le verre d'eau qui préoccupe beaucoup Pierre Michon me préoccupait, donc excusez-moi. Écoutons-les.
Je crois qu'on va commencer. Excusez-moi. Bon, Blaise Gauthier a présenté les invités, donc je ne referai pas la présentation. J'entends la présentation physique de l'un et de l'autre de mes voisins. Je voudrais quand même dire deux ou trois mots en ouverture de ce débat. Rappeler d'abord, d'ailleurs, que ce cycle de débat, d'une certaine façon, a pour but de faire, sinon le point, du moins de dresser une sorte d'état des lieux d'un certain nombre de points de mutation actuels dans la réflexion sur la littérature, de montrer aujourd'hui quelles pourraient être ou quelles sont la ligne de front, la ligne de conflit entre, Sainte-Beuve et le contre-Sainte-Beuve de Proust. Bon, je rappelle ça pour ceux qui n'étaient pas là éventuellement la dernière fois. Je rappellerai aussi que le principe de ces séances est de mettre en présence un écrivain et un théoricien, même si je sais d'avance que Philippe Lejeune récusera ce terme, et de mettre en présence un écrivain et un théoricien dont les œuvres entrent d'une façon ou d'une autre en intersection, mais qui, en général, ne se connaissent pas. Enfin, et là, en l'occurrence, c'était tout à fait le cas, puisqu'ils se sont rencontrés pour la première fois il y a quelques instants. Le sujet du débat de ce soir est donc qu'est-ce qu'une vie ? Pourquoi qu'est-ce qu'une vie ? Bon, ça, c'est très, évidemment, c'est très, très vaste. En tout cas, ça n'est pas qu'est-ce que la vie, ce qui serait encore plus vaste. Pourquoi qu'est-ce qu'une vie ? Sujet infiniment vaste. Probablement parce qu'on assiste aujourd'hui ce que, reprenant le terme de Barthes en 1971, dans Sade, Fourier, Loyola, j'appellerais un retour amical de la vie. Retour amical de la vie, probablement après deux périodes que je ne fais que mentionner pour mémoire, la période sartrienne, ou d'une certaine façon, sinon Sartre, du moins l'un des Sartres, enfin une partie de Sartre, je dirais la partie qui irait de situation 2 à l'idiot de la famille, savait ou du moins pensait pouvoir arriver à savoir ce qu'était une vie, et après une autre période qui est celle qui est marquée par le nouveau roman d'un côté, par les sciences humaines de l'autre, enfin le grand mouvement, l'âge d'or des sciences humaines des années 60, où en un certain sens, bon, ont été définitivement, je crois, battues en brèche justement toutes les totalisations sartriennes, ont été remises en cause tout ce que l'on croyait savoir auparavant. Néanmoins, je pense, et depuis un certain temps, que l'on assiste donc à un retour amical de la vie, je prends le mot à la préface de Sade, Fourier, Loyola, c'est-à-dire que sûrement, hors même de la littérature, on ne sait plus très bien ce qu'est une vie, C'est-à-dire que il y a un acquis, si vous voulez, des sciences humaines et du nouveau roman, un acquis qui va dans le sens de la perte de sens, au sens de la perte de direction, de la perte de signification de cette totalité rassurante que l'on croyait connaître auparavant. Reste que la question de la vie, néanmoins, ne cesse de revenir de multiples façons. Et dans la littérature plus précisément, on se repose d'une nouvelle façon probablement la question des rapports de la vie d'un écrivain et de son œuvre. Et on n'est plus aujourd'hui dans une sorte d'exclusion simple de la question de la biographie, comme on pouvait l'être évidemment, par exemple, dans les années 60. Troisièmement, et c'est la conséquence des deux choses que je disais, il est tout à fait sûr que la question de l'autobiographie se repose probablement d'une toute nouvelle façon aujourd'hui. C'est des choses dont nous pourrons parler évidemment essentiellement avec Philippe Lejeune, qui a consacré nombre de travaux aux nouvelles tentatives de l'autobiographie, aux nouvelles façons de faire une autobiographie, après que l'ère du soupçon soit passée. Je voudrais juste pour mémoire, concernant ce retour amical de la vie, citer trois auteurs qui, d'une certaine façon, pourraient servir d'exergue à ce débat en dehors des deux qui nous réunissent, enfin, ou plutôt rappeler trois auteurs. Je rappelle le Barthes de Sade Fourier-Loyola en 71. Je rappelle des textes que je crois très importants et que nous serons amenés probablement à évoquer, parce que je crois qu'ils appartiennent à un territoire commun de Philippe Lejeune et de Pierre Michon, les textes de Foucault sur la vie. Tant le texte sur Pierre Rivière que l'ensemble des textes que d'une certaine façon Foucault a pu écrire après 1973 concernant justement qu'est-ce qu'une vie, en particulier un texte qui s'appelle La vie des hommes infâmes, en particulier la présentation d'une collection qui a été malheureusement éphémère chez Gallimard et qui s'appelait Les vies parallèles, bon, qui se donnait comme projet de publier des textes qui dans le point d'impact, je dirais, était la vie. Enfin, je voudrais rappeler, il était là lors du débat précédent, le texte de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, L'illusion biographique, le texte très important de Bourdieu, L'illusion biographique, en 1986. Juste deux mots sur la façon, je crois, dont cette question de la vie a refait surface, si on veut, dans la pensée et dans l'écriture contemporaine, pour rappeler que donc... Dans la critique, c'est évidemment l'intérêt pour l'autobiographie, ou la bio-autographie, ou la graphie autobio, enfin tout ce que vous voulez, enfin je dirais l'autobiographie à entendre au sens maximal, qui est revenu au premier plan, et la question d'une poétique, au sens aristotélicien, d'une poétique de l'autobiographie, qui en général s'est focalisée sur des réflexions sur les grands auteurs du XXe siècle ou les grands contemporains, j'entends par là Proust et Céline d'un côté ou Sartre, Léris, Pérec de l'autre, enfin bon, qui en général justement peut-être n'a pas été tellement sur les... ne s'est pas trop occupé des contemporains immédiats. Concernant la littérature, je crois que ce qui a marqué toutes ces dernières années, donc finalement, disons, depuis une grosse dizaine d'années, enfin une très grosse dizaine d'années même, ce renouveau de la question de la vie, c'est probablement l'apparition dans, je dirais, au moins la moitié de la littérature contemporaine française, du genre de la vie brève, de ce que beaucoup d'auteurs, en tout cas, ont appelé la vie brève, même si ça recouvre souvent des textes extrêmement différents. En tout cas, je pense que tous seraient d'accord pour se placer plus ou moins sous le patronage, enfin, non seulement probablement du Barthes des biographèmes que je citais au départ, mais d'un auteur comme Marcel Schwab et ses vies imaginaires. Parmi les auteurs auxquels je songe, outre Pierre Michon évidemment, je songe à des auteurs comme Florence Delay, comme Jacques Roubaud, comme Pascal Quignard, comme Gérard Massé, comme Daniel Auster, comme Alain Nadeau, etc., etc. Enfin bon, tous ont... eu affaire avec, dans leurs livres, et dans nombre de leurs livres, sinon la totalité de leurs livres, à une façon de réfléchir, enfin, à la question de la vie, et on pourra se poser la question de savoir en quel sens, puisqu'en général, au fond, il ne s'agit pas, dans ce retour amical de la vie chez eux, là non plus, d'une sorte de... Enfin, il ne s'agit pas d'un retour en arrière, il ne s'agit pas de retour à la vieille biographie, mais peut-être à la limite de faire aller, enfin plutôt d'une sorte de retour en avant, je dirais, qui consiste à pousser jusqu'à son terme une certaine... impossibilité biographique après avoir poussé jusqu'à son terme, après que la littérature ait poussé jusqu'à son terme une certaine impossibilité, en tout cas un certain questionnement sur le personnage, le récit, etc., etc. Et poussé jusqu'à son terme l'impossibilité biographique, ou y compris donc sur les figures relativement souvent intouchées du narrateur et surtout de l'auteur, enfin bon, avec tous les guillemets du monde. La question de la vie est aussi très présente chez ces mêmes, enfin, et peut-être aussi chez ces mêmes écrivains, une façon de poser la question, de faire aujourd'hui de la théorie. Enfin, c'est probablement par ces textes que passe aujourd'hui la théorie littéraire. Je citerai juste le portrait de la Bruyère, qui contient probablement tout ce que Pascal Quignard pense de la littérature, par exemple, qui est une jeune technique à l'égard des fragments. Bon, voilà pour le cadre un peu longuement développé. De Pierre Michon, je rappellerai juste à ceux qui ne l'auraient pas lu qu'il est l'auteur de Vie minuscule, qui est, je crois, la matrice de son œuvre, qui est parue en 1984. Matrice de son œuvre au sens où il s'agit d'une sorte, alors là j'avance avec tous les guillemets d'usage, il s'agit d'une sorte d'auto-hétérobiographie, enfin d'autobiographie par vie perpendiculaire, comme il y aurait des vies parallèles, et en un certain sens, les autres livres de Pierre Michon que vous connaissez s'inscrivent probablement à l'intérieur de ce cadre, à commencer par le Rimbaud, Rimbaud le fils, dont évidemment nous parlerons et qui est paru cette année. C'est pas un débat sur la psychanalyse, mais le lapsus est relativement contagieux. je suis vraiment désolé pour vous qui êtes la malheureuse victime. Ça pose toute la question de l'identité de Philippe Lejeune, finalement. De Philippe Lejeune, je dirais, reprenant ce qu'il dit lui-même dans Moi aussi, en un certain sens, qu'il pourrait dire comme Flaubert, l'autobiographie c'est moi. Il le dit avec une certaine ironie dans Moi aussi. J'entends par là qu'il a consacré évidemment toute son œuvre à l'autobiographie, de ses premiers travaux sur justement l'autobiographie ou Michel Léris, mais en particulier à partir d'un livre classique maintenant qui est le Pacte autobiographique. Sur lequel il n'a cessé de revenir par la suite dans plusieurs autres livres. Je dirais juste par ailleurs que la logique de ses travaux l'amène aujourd'hui d'une part à continuer des travaux classiques qui étaient les siens au départ sur des écrivains comme Sartre, Pérec ou Nathalie Sarraute, mais de plus en plus à s'intéresser à des autobiographies d'inconnus, des autobiographies anonymes, et en particulier, mais je sais qu'il veut absolument vous en parler, je sais même qu'il veut lancer un appel à certains d'entre eux, enfin au public, et en particulier à s'intéresser aux journaux de jeunes filles du 19e siècle. Il cherche des journaux de jeunes filles du 19e siècle. Voilà. Enfin, nous en reparlerons. Voilà. Je vais évidemment leur donner la parole et je commencerai par demander à Philippe Lejeune comment finalement il perçoit la complexité de l'œuvre, enfin en particulier des vies minuscules de Pierre Michon, à la fois étant donné la situation que je rappelais brièvement peut-être de la littérature française d'aujourd'hui, et étant donné aussi la grille qu'il avait fixée dans le pacte autobiographique, il avait fait une sorte, en tout petit je dirais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cases, de tableau de Mendeleïev, des genres possibles, où il y avait le roman d'un côté, l'autobiographie, tous les genres intermédiaires, bon. Et comment voit-il l'œuvre de Michon à l'intérieur de cela? Je le dis d'autant plus qu'il a consacré, en particulier à propos de Pérec, un livre tout entier à la question du nouveau en autobiographie, de l'innovation en autobiographie. Alors, Michon innove-t-il? Et comment le lisez-vous?
Il s'agit des vies minuscules, donc je pense.
Il s'agit des vies minuscules.
C'est la question.
Oui. Il s'agit des vies minuscules, oui. Principalement, oui.
S'il s'agit des vies minuscules, moi je le lis comme Michon demande qu'on le lise. C'est un récit. C'est un récit qui porte sur Pierre Michon, qui est nommé dans le livre. Là, je joue le rôle du... Je ne sais pas si c'est Pierre, Philippe, François, le jeune, mais du théoricien qui trace des tableaux bien, bien tirés au cordeau. C'est donc un livre dans lequel il y a un narrateur qui s'appelle Pierre Michon, qui présente une série de 8 vies Il y a dans Vie minuscule 8 chapitres, vie 2. C'est donc des biographies. Les 8 chapitres sont des biographies. Mais la somme, ce que le lecteur comprend, c'est que la somme de 8 biographies, qui sont toutes des vies qu'a croisé le narrateur qui n'est autre que l'auteur, finissent par constituer une espèce de grand puzzle autobiographique indirect. L'important, naturellement, est la manière, l'endroit dans lequel le lecteur s'identifie dans le texte. Bien sûr, il va lire chacune des vies, entrer dans chacune de ses existences, mais ces existences sont soutenues par la parole, l'écriture d'un narrateur unique. Chacune d'entre elles disparaît à tour de rôle, s'efface devant la suivante, le narrateur, lui, reste. On suit le fil continu, finalement, même si ce sont des éclats de vie. Il n'y a aucun projet d'une construction d'un récit biographique cohérent dans Vie minuscule. Ce n'est pas ce fil-là que l'on suit. Mais il reste que toutes les bribes, les éclats d'une vie accrochés à ces personnages dont il a traversé l'existence, finissent par constituer une espèce de tableau d'autoportrait de l'identité de Pierre Michon. Donc on le lit. Alors, une autobiographie, je ne dirais pas vraiment ça, dans la mesure où il n'y a pas d'histoire, un autoportrait de Pierre Michon avec huit facettes, huit moments. Mais je voudrais dire, donc moi je le lis donc comme un autoportrait de Pierre Michon, qui est en même temps un livre. Les tableaux sont trompeurs parce que les tableaux isolent des espèces de cas de purs, des espèces de cas de grammaire. Mais on sait que quand on produit un énoncé, on combine des tas de règles différentes. Donc, dans un genre, dans un texte particulier comme celui-là, eh bien, il y a des discours biographiques qui sont finalement tout de même mis au service de ce qui, au bout du compte, apparaît comme une tentative d'autoportrait. Mais ce qui m'a frappé beaucoup plus dans un autre point sur lequel... Donc, c'est une espèce d'autoportrait oblique, en 8 facettes. Mais ce qui m'a frappé beaucoup plus, c'est pas Vie minuscule, c'est la place de Vie minuscule dans l'écriture de Pierre Michon. Et le fait qu'il y a d'autres tableaux, d'autres cases dans le pacte autobiographique, en particulier tout un développement sur ce que j'appelle l'espace autobiographique, c'est-à-dire la manière dont un écrivain contraint ou suggère à ses lecteurs de lire comme autobiographie indirecte, par exemple, des livres de fiction ou d'autres types de textes qu'il aurait par ailleurs publiés, en réunissant tout, en suggérant donc finalement que tout renvoie à lui. Ce qui se passe dans un curriculum classique d'écrivains, c'est qu'en général, les écrivains commencent par produire des fictions dont ils prétendent qu'elles ne sont pas ou, enfin, disons, ils ne donnent pas de clés, et puis ils finissent, au bout du compte, par une autobiographie terminale, à donner la clé de lecture d'un ensemble qui s'est développé dans le temps, toutes sortes d'œuvres. Et Pierre Michon a choisi, son œuvre a l'air de suivre exactement, pour l'instant, le processus inverse. C'est-à-dire qu'il a commencé par où les autres finissent, c'est-à-dire qu'il a commencé finalement par construire ce que Jean-Pierre Salgas appelait très justement une matrice d'espace autobiographique à base de biographie. Et il a l'air, en fait, son œuvre a l'air de s'en, pour l'instant, je ne sais pas, de s'en écarter, de quitter. Il peut maintenant quitter ce narrateur autobiographique qui fait la continuité de Vie minuscule pour explorer beaucoup plus librement des biographies hypothétiques, imaginaires, de personnages réels, qui apparemment sont détachés maintenant de lui. Comme si le cordon ombilical, en fait, on le sent extrêmement présent, je vais y revenir par un autre aspect, mais enfin, quand on lit même si le Rimbaud figure à la fin de Vie minuscule, un lecteur peut lire le Rimbaud tout seul, et peut lire le Rimbaud le fils, il peut lire aussi la vie de Joseph Roulin, absolument toute seule. Donc, ces fictions, ce ne sont pas vraiment des fictions, ces hypothèses biographiques prennent leur autonomie. Qu'en sera-t-il dans l'avenir? Y aura-t-il un retour, un éclatement d'autre chose? N'en sais rien, Pierre Michon nous le dira peut-être tout à l'heure. Est-ce que je peux ajouter encore sur la manière dont je lis Pierre Michon? Ce qui m'a beaucoup frappé dans la lecture de vos textes, je peux lui parler directement, hein, je pense. Je peux vous parler?
Oui, bien sûr. On est même là plus ou moins pour ça.
Oui. C'est, et qui d'ailleurs au début dans la lecture m'a... on est toujours, quand on entre dans une écriture qu'on ne connaît pas, on est toujours bon, saisi, comme quand on entre dans une eau qui a une température différente de celle à laquelle on s'approche. J'ai été saisi par l'entrée dans vos textes. J'ai besoin de m'ébrouer un peu pour m'y faire et pour épouser le mouvement que vous proposiez à votre lecteur. Une autobiographie, en principe, l'autobiographie, je ne sais pas si ça existe, se traduit par une certaine, en général, une certaine relative transparence ou égalité du langage. Alors, il est évident que dès qu'on vous ouvre, en fait, c'est pas une autobiographie, une biographie qu'on a sous les yeux, c'est pas du tout comme ça qu'on identifie les textes, on est dans une écriture. C'est un certain type d'écriture dans lequel on est immédiatement plongé, ensuite on va éventuellement dire c'est ceci, c'est cela, mais on est d'abord pris par un travail d'écriture. C'est ça qui frappe. Et ce travail d'écriture extrêmement élaboré, extrêmement précieux, extrêmement précis en même temps, on le sent assez souvent comme, moi je le sens comme extraordinairement parodique. Et il ne l'est pas sûrement, mais il donne, il ne l'est sûrement pas, mais il donne par rapport à ce que pourrait être, je vais m'expliquer, hein. Parce que là, c'est le problème pas de l'autobiographie, mais de la biographie. Quand si j'ai choisi de m'intéresser à l'autobiographie, c'est peut-être parce que j'ai de très fortes résistances à la biographie. J'arrive pas à croire aux biographies. En général, quand je lis la biographie de Zola par Lanoux, par exemple, je lis la première page, le récit de la naissance de Zola, ça me semble, j'ai envie de rire, et je n'arrive pas à y croire. Une seconde, parce que c'est donné comme quelque chose auquel vraiment on nous propose de croire au premier degré. Quand on vous lit, on n'a jamais, un quart de seconde, cette impression-là, c'est-à-dire qu'on est devant quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait qu'il est en train de... qui ne vous dit pas la vérité, que de toute façon une telle chose n'existe pas, qu'il est en train d'accompagner avec du langage quelque chose qui va peut-être advenir. Bon, c'est ça qui... Donc on accepte le compagnonnage, on fait le chemin avec vous, et d'ailleurs on ne peut pas les consommer, ces biographies que vous faites. Le lecteur doit y participer. Le lecteur doit suivre le chemin retors que vous, l'espèce de travail, il y a un travail biographique, un travail d'imagination. Vous associez le lecteur au travail d'imagination d'une biographie. Et oui. C'est ça qui est la chose, moi je trouve prodigieuse. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant, on n'est jamais devant un objet à consommer. On est associé, donc c'est un peu comme chez Léris ou chez Proust ou d'autres. Je veux dire, votre travail est un travail, je dirais, baroque. C'est-à-dire, c'est la biographie qui est en train de se faire, en train de se créer dans l'écriture, qui est en suspens dans le mouvement, dans la vitesse, dans l'énergie de cette écriture qui va peut-être disparaître. Hein. On ne sait pas, c'est vous qui la portez. Et quand je lisais donc ces biographies, j'avais l'impression que j'avais dans ce travail d'écriture absolument merveilleux, c'est que vous étiez, là je vais vous faire des compliments puis des comparaisons que vous avez peut-être récusées, que vous étiez par rapport au fond au genre peut-être du portrait biographique dans la même situation que Francis Ponge par rapport à la nature morte. C'est-à-dire qu'on voit d'abord que c'est du langage, hein, que tout, il y a quelque chose qui va se passer, advenir, qu'il y a quelque chose qui pourrait être un objet mais qui va advenir dans du langage, il y a quelque chose qui pourrait être une vie et qui va fugitivement se créer, s'élaborer, et vaciller peut-être dans du langage. Alors je crois que c'est un art très, très exigeant, c'est un renouvellement de la biographie, car il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus, enfin, rien, on ne joue plus du tout sur l'illusion, on joue sur la connivence, la participation, et même moi qui ai tellement de mal à imaginer des vies, ben je vous ai les vies des autres, c'est pour ça que je fais l'utopie, je trouve que c'est plus simple de parler. Jamais je n'aurais eu l'audace ou le courage ou la constance de suivre ce que pouvait être la vie du facteur Roulin jusqu'au bout, et avec vous je le fais, j'ai pas du tout l'impression d'être dans la fiction, j'ai l'impression que peut-être je pourrais continuer ou peut-être m'y mettre, voilà.
Oui, je crois, enfin, moi...
Je voulais juste poser une minuscule question, minuscule étant le mot de la soirée, à Philippe Husson. Enfin, donc, la différence, là, comme ça, vous esquissez, entre entre, par exemple, le livre de Michon et la biographie serait uniquement de l'ordre de l'écriture. Parce que j'ai été surpris que vous preniez l'exemple de la biographie de Zola par Armand Lanoux comme exemple de biographie à quoi vous ne pouvez pas croire. Mais il y a, enfin, on pourrait. Vous n'avez pas pris l'exemple d'un, par exemple, d'une biographie qui pourrait être écrite par un écrivain qui aurait aussi une écriture.
Il fallait que je prenne un contraste. Je ne dis pas que Pierre Michon soit le seul.
Sauf que vous avez aussi à un autre moment dit que l'autobiographie et l'écriture étaient comme exclusives l'une de l'autre. C'est pour ça que je...
Enfin, bon, voilà. Non, c'est pas.
Bon, c'est non, une
approximation.
C'est une approximation. Bon,
Non,
je vous demanderai à la fois de répondre à Philippe Eugène, bien sûr, mais peut-être aussi d'expliquer. C'est ce très curieux projet qui a été le vôtre, de commencer votre œuvre par la fin. Si on se réfère à...
Non, je vais d'abord quand même dire que c'est pas parodique. Jamais, ça peut être ironique. Enfin, tous les vieux systèmes narratifs sont peut-être pris avec une certaine ironie, mais ils ne sont pas parodiés. Ils ne sont pas parodiques, ils sont aimés. Enfin, j'aime beaucoup ces formes que peut-être je gauchis un peu, mais simplement un petit peu pour marquer que nous les connaissons, mais pas du tout pour les dévaluer, je ne crois pas. Ça c'est pour la parodie. Ensuite, vous parlez de l'occurrence de Pierre Michon, qui est l'auteur des Vies minuscules. Non, pas du tout, c'est un garçon qui s'appelle Pierrot, une fois, dans le livre, jamais Pierre Michon n'est le narrateur, jamais il ne l'est nommément. Un certain Pierrot, page je ne sais quoi, est narrateur de ce texte, comme il est narrateur du Rimbaud, sous la figure du Gilles de Watteau. Enfin bon, ça, c'est... Qu'est-ce que je dois dire encore là, sur la... Qu'est-ce que vous m'avez demandé, Jean-Pierre Salvin?
Non, mais je vais vous lire une phrase de vous, qui va appuyer ma question. À un moment, Pierrot, donc, écrit, il s'agit dans la vie de Georges Bandy, vous dites « Comment écrire du reste quand je ne savais plus lire, au pire de misérables traductions de science-fiction, au mieux les textes benoîtement tapageurs des Américains de 1960 et ceux pesamment avant-gardistes des Français de 1970 étaient mon seul aliment, etc. etc. » Bon. Et, bon, je dis ça, cette phrase n'est pas évidemment dans un texte aussi concerté là par hasard. Je repose ma question à la lumière de cette phrase. Comment, finalement, avez-vous choisi d'écrire des vies, fussent-elles minuscules, et de continuer dans cette voie à ce moment-là de la littérature française, bon, d'autant que j'imagine vous aviez écrit d'autres choses auparavant, etc. Donc pourquoi ce choix de la vie, du questionnement de la vie à ce moment-là?
Bon, oui. D'abord, je n'ai pas l'impression d'avoir... Enfin, je vois bien ce que vous voulez dire quand vous dites que j'ai commencé à l'envers, mais je n'ai pas eu l'intention du tout, avec les Vies minuscules, de bâtir ce que vous appelez un espace autobiographique et ensuite de remplir les blancs avec des personnages extérieurs. Simplement, ce livre m'a permis d'écrire, non pas du tout en venant à moi, mais je crois en me projetant sur d'autres, sur des autres que j'avais connus. C'est-à-dire que il n'y a pas dans cette autobiographie oblique, il n'y a pas d'abord... Comment dire, la victoire relative de ce livre n'est pas d'avoir parlé de moi, mais d'avoir pu parler des autres, d'autres qui ont par ailleurs existé et que peut-être je bonifie un peu ou j'embellis ou je... Et la suite, enfin les textes sur des personnages plus importants sont peut-être aussi dans l'ouverture à l'autre, enfin comme était ce livre. C'est-à-dire, je crois que ce qui est important dans ce livre, ce n'est pas l'autobiographie, c'est les portraits de gens qui me permettent une sorte de pseudo-autobiographie. Enfin, pour moi, dans le projet, s'il y avait un projet.
Et plus précisément, vous vous souvenez de la façon dont vous avez eu ce projet, justement ?
Non, pas vraiment. Enfin,
C'est-à-dire comment éventuellement vous êtes passé à...
C'est-à-dire que, bon, pour revenir à la phrase que vous avez citée sur l'avant-garde des années 70, il y avait dans l'avant-garde des années 70 vraisemblablement une sorte d'évacuation du sensible et du monde un peu louche comme ça de l'affection qu'on peut porter à l'autre. Et J'étais tout à fait adepte de cette modernité-là. C'était celle qui me faisait, qui me prescrivait mes règles d'écriture ou d'absence d'écriture, puisque je n'écrivais pas à l'époque. Et en ayant l'idée, en faisant la première histoire de ça, qui était l'histoire d'un personnage dont on m'avait parlé, qui était un tout petit personnage, je me suis rendu compte que la littérature pouvait encore, sans parodie aucune, rendre compte de petites vies. Rendre justice peut-être à de petites vies plus que rendre compte, puisqu'on sait bien qu'on ne peut pas en rendre compte, mais faire comme si, auprès de soi-même au moins, on rendait justice à des petites vies. Voilà, et que c'était important.
L'exact du livre, c'est une phrase d'André Suarez. Par malheur, il croit que les petites gens sont plus réels que les autres.
Oui, ça c'est un peu
un jeu après coup.
Mais... Non, mais ça a donné. Ça a donné à mon projet d'écrivain une réalité, effectivement, qu'il n'avait pas, sinon qu'il avait. Sinon, c'était simplement un projet de faire acte d'écriture, de faire. Alors ça, on le peut avec n'importe quoi, mais ça n'est pas. C'est sans attache affective ou sans attache plus forte qu'affective, sans attache. Je ne sais pas, sans justification.
Et ensuite, quand vous passez des petites vies aux grandes vies, vous le sentez comme, enfin, justement sous cette forme, ou en fait, moi j'ai le sentiment que Rimbaud, par exemple, c'est toujours une petite vie, enfin, au même sens que les vies minuscules.
C'est toujours une petite vie, mais ça n'est pas du tout comme on pourrait penser. Enfin, on me dit souvent que j'ai fait de Rimbaud une vie minuscule, ou des grands peintres des vies minuscules, pas du tout. Simplement, comment dire, avec les vies minuscules, je crois que j'ai voulu gonfler vers le légendaire des noms qui étaient des tout petits noms, des noms qui étaient voués à l'anonymat. J'ai voulu en faire des noms glorieux. Alors qu'avec les peintres, avec le Rimbaud, j'ai voulu faire douter un instant de noms glorieux, mais finalement, je crois, pour les rétablir et non pas du tout pour les démystifier, comme on dit. Ou... Je ne sais pas si je réponds là.
Est-ce que je peux poser une question?
Oui.
Est-ce que le Vie minuscule est votre premier livre publié? Est-ce que c'est votre premier livre?
Je crois que c'est mon premier livre publiable, en tout cas.
Oui. Et vous avez fait, c'est peut-être indiscret, vous avez fait allusion, et on voit qui est raconté dans Vie minuscule, une période d'impuissance devant la page blanche, etc. Et entre ces épisodes qui sont représentés dans Vie minuscule et l'écriture des Vies minuscules, il y a eu autre chose, un trajet d'écriture dont on peut parler, qui a une consistance ou...
Il n'a pas de consistance. C'était un projet d'écriture vide et... Je crois enfin que le mot de vie dont on parle ce soir, enfin la vie des autres, pour moi est très important pour que je puisse écrire. C'est-à-dire me sentir fondé, mais comme nous sommes tous, à rendre compte avec toute la rhétorique d'incertitude que j'emploie, peut-être il a fait ça, peut-être pas, peut-être, mais de rendre compte avec cette incertitude de certaines vies et peut-être leur rendre justice brièvement pendant que j'écris sur eux et pendant que mes lecteurs me lisent, même si c'est un mensonge, c'est quand même non, c'est oui, c'est quand même vraisemblablement une réparation de leur trajet avorté, du fait que nous soyons mortels. Enfin, chose aussi bête que ça.
On ne les prend jamais pour des mensonges, quand on les prend pour des hypothèses, pour des...
Mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas parodique, parce que c'est peut-être parodique au niveau de... Oui, au niveau de la technique d'écriture, on sait bien comment ça se fabrique, l'écriture, on sait bien, mais il n'empêche que... tout en ironisant le procédé, il n'empêche qu'au bout du compte, ce qui reste, l'émotion qui reste, est la même qu'au temps d'illusions réalistes. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que la parodie n'est pas vraiment une parodie, c'est une petite distance de plus, parce que nous avons 100 ans de plus que les gens de l'illusion réaliste, c'est tout.
Enfin, je dois dire pour ma part que je n'ai jamais eu un sentiment parodique à la lecture de Pierre Michon. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous disiez juste à l'instant, quand vous dites finalement, quand je m'intéresse à Van Gogh ou à Rimbaud, c'est pour douter un instant du majuscule, de la vie majuscule, et en fait la rétablir. Mais est-ce que c'est pas, enfin, je retournerai dans la rhétorique totale, la formule, mais est-ce que c'est pas aussi pour douter majusculement de la vie, comme Vie minuscule avait commencé de le faire, c'est-à-dire en montrant que ma vie, enfin plutôt la vie du narrateur, ne pouvait exister que sous la forme de ce que le jeune appelait un puzzle. Ou pas, je sais pas du tout, enfin moi je le sentirais plutôt comme ça.
Oui, oui, c'est effectivement les peintres ou Rimbaud jouent le même rôle que les vies minuscules, c'est-à-dire c'est des identités de remplacement d'une instance narrative, enfin, d'un narrateur.
Oui. Mm-hmm. Oui, c'est ça, enfin par douter de la vie, j'entends douter de la vie au sens du système unifié de récits, bon, enfin, dont la littérature pouvait douter sous d'autres formes auparavant, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure le double sens de la vie, direction et signification, en prenant d'ailleurs la formule à Bourdieu. Enfin, je vois, vous le sentez.
Oui, je crois.
Enfin, vous décririez votre projet comme ça. Alors, j'aimerais poser une question, enfin me retourner vers Philippe Lejeune à ce point-là de la conversation, parce que je me demande pour les mêmes raisons, au fond, au moment où Michon va de plus en plus, enfin, je ne sais pas ce qu'il écrit actuellement, mais a été en tout cas des vies minuscules jusqu'à des vies majuscules traitées de façon plus ou moins minuscule. Bon, vous n'avez cessé, puisque vous êtes parti de Rousseau, Sartre et Léris au point de départ de vos travaux publiés, sinon publiables, puisque peut-être qu'il y a des journaux, enfin des autobiographies qui n'étaient pas publiables, on en reparlera aussi. Vous n'avez cessé au contraire d'aller vers les vies que Michon appellerait minuscules. Alors comment, c'est le rôle en particulier de Chercaillier, du travail que vous faites actuellement sur les journaux de jeunes filles, bon, comment vous expliquez cette trajectoire ? C'est-à-dire vers l'autobiographie de tout le monde, oui. Comme dirait Gert Hochstein.
D'abord, je peut-être qu'il faut rectifier la description de la trajectoire. Parce que le mot trajectoire a l'air d'impliquer que je suis parti de Jean-Jacques Rousseau.
Mais ça implique d'abord la présentation classique de la vie, qui est que c'est un début, une fin, qu'on sait où on va. Bon, ce qui, j'imagine, n'est pas le cas, justement.
Oui. Enfin, je suis parti des vies majuscules, probablement vers les vies minuscules, mais je n'ai pas non plus abandonné les vies majuscules, ou disons, je suis parti des œuvres littéraires, des écrivains, des autobiographies d'écrivains vers l'autobiographie de tout le monde, mais sans renoncer pour ça à m'intéresser aux autobiographies d'écrivains. Donc il s'agit pas d'un changement, mais d'un élargissement.
C'est-à-dire, enfin, bon, les autobiographies d'écrivains, vous semblez, à lire vos textes publiés, ne vous intéresser qu'au nouveau en autobiographie, enfin qu'au cas qui va remplir une nouvelle case ou qui va créer une nouvelle case dans le tableau. Vous semblez blasé sur l'ancien en autobiographie. Enfin, bon.
Peut-être parce que mon intérêt pour l'autobiographie est parti aussi d'une gêne devant le modèle, ce que je supposais être le modèle classique ou... comment est-ce qu'on peut-on écrire encore sa vie aujourd'hui comme Julien Green ou comme d'autres, sont de très beaux textes, mais enfin dont le modèle, c'est un costume dans lequel j'avais l'impression que je ne pouvais pas entrer, je ne pouvais essayer ce genre d'habit-là. Voilà. Et donc, il est certain que mon intérêt, bon, Rousseau, ça c'est des ancêtres, mais dans les écrivains modernes, j'ai cherché ceux qui... proposer des nouvelles solutions, que ce soit donc mes deux grands amours, ça a été Léris il y a une vingtaine d'années, puis plus récemment Perec, mais enfin aussi bien d'autres. Hein. On lit pour chercher des manières d'écrire, c'est évident. Hein. Et des choses qu'on peut écrire aujourd'hui. Voilà.
Mais là, je reviens à ma question sur Chercaillier. Ou plutôt, je la reformulerai en passant peut-être par Calico, qui est peut-être le... D'ailleurs, j'aimerais que vous expliquiez à un nombre d'entre nous, je pense, qui ignorent ce livre, parce que c'est un livre publié chez un petit éditeur et qui n'a pas eu la diffusion de vos autres livres. Ce dont il s'agit avec Calico, je dis ça parce que c'est probablement votre livre le plus michonien, enfin le seul où vous frôlez le travail d'écrivain directement. Et qui est peut-être le point de cassure, s'il y en a un, dans cette trajectoire impréparée, qui vous fait... Non ?
Oui. Calico fait partie d'un ensemble de changements. Il y a l'intérêt pour la vie, les vies écrites par des gens ordinaires, et l'intérêt aussi pour les vies, dont on ne parle pas du tout ici, naturellement, des vies parlées, pas des vies écrites, mais des vies parlées. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire orale, qui se développe effectivement en dehors du champ de la littérature, en sciences humaines et également dans les médias, qui est sont des productions extraordinairement importantes quantitativement pour l'imaginaire, la manière dont elles amènent tous les gens à même constituer leur vie. Nous sommes des gens qui mangeons des vies, nous faisons notre vie avec toutes les vies que nous consommons, oralement ou par écrit, et aujourd'hui, les vies orales sont extraordinairement nombreuses.
D'ailleurs, je m'excuse, vous dites, je crois, vous avez consacré un livre aux vies orales qui est « Je vais être un autre », enfin, qui est principalement,
partie,
oui. Et vous dites, je crois, c'est dans « Je vais être un autre », ou peut-être dans moi aussi, que le changement de vos intérêts est venu du passage du Sartre des mots au Sartre oral, à ce moment-là.
Oui, enfin, c'est une des choses, je me suis aperçu qu'il parlait...
Comme
je suis en train de parler actuellement, c'est-à-dire n'importe comment, et que... il prêchait l'irrévérence et je l'ai pris au mot, voilà.
Mm-hmm. Enfin, revenons à Calico, là.
Alors, Calico,
c'est écrit, c'est une vie très écrite.
Calico, c'est d'abord l'histoire d'un remords, puisque vous parlez de ma trajectoire. J'ai rencontré Calico, c'est mon arrière-grand-père. Alors, il s'appelle, autre prénom à ajouter, Xavier-Édouard. Ni Pierre, mais il y en a beaucoup. Xavier-Édouard le Jeune, mon arrière-grand-père, je l'ai rencontré en fait deux fois, j'ai eu deux rendez-vous dans ma vie avec lui, l'un que j'ai raté et l'autre que j'espère avoir réussi. Le premier que j'ai raté, c'est quand, vers 1970, commençant à étudier l'autobiographie, la famille m'a confié la pile des manuscrits de l'arrière-grand-père en me disant « Toi qui t'intéresses aux autobiographies, tiens, voilà, lis et regarde. » Et j'ai lu, j'ai regardé et j'ai trouvé, à ce moment-là, j'étais snob, et j'étais dans Rousseau, dans Les Rises jusqu'au cou, et j'ai trouvé que ce Xavier-Édouard, qui était employé de commerce, écrivain autodidacte, qui suivait des modèles de récits vraiment parfaitement convenus, son livre s'appelait « Les étapes de la vie », l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, le mariage. Bon, d'abord c'était ma famille, donc c'était ce à quoi je voulais échapper. Hein. Bon, sous les plans, donc j'ai dit « c'est émouvant » et je l'ai mis de côté. Bon, et je l'ai re-rencontré, en fait, quand j'ai eu suffisamment étudié les grands écrivains pour bien comprendre leurs leçons et m'intéresser à l'écriture en général et pas aux grands écrivains. Et donc, c'est 7 ou 8 ans plus tard que j'ai eu l'occasion de relire ces cahiers et j'ai eu, alors, en les lisant, un éblouissement. Est-ce que ça veut dire que je me suis converti à l'autobiographie conforme, classique à ce moment-là? Pas du tout. C'est que j'ai découvert qu'en réalité, il y avait dans l'œuvre de mon arrière-grand-père, employé de commerce, qui écrivait une autobiographie si sage, qu'il y avait un drame, une faille, des drames horribles, qui se voyaient au dysfonctionnement du modèle qu'il utilisait. C'est en examinant bien ce texte, apparemment totalement poncif, classique, enfin presque recopié, un texte de copie, en le lisant soigneusement, que je me suis mis à voir comment, en fait, le sens s'exprimait, je dirais, malgré le texte, dans les failles du texte, dans les trous du texte, dans les contradictions du texte. Et cela, non pas à l'insu de Xavier-Édouard, mais au fond, que d'une certaine manière, ça faisait partie de son projet. Que donc, cet homme ordinaire, qui maniait de l'écriture ordinaire, s'était débrouillé avec de l'écriture ordinaire pour dire autre chose que ce que l'écriture ordinaire permettait de dire. Mais simplement, il fallait qu'on ait la patience de le lire, de comprendre. Et donc, je me suis mis à le lire, essayer de déchiffrer ce récit extrêmement sage. Hein. Aussi loin que je me souvienne, je revois la petite maison de mon grand-père, etc. Bon, ça vous tombe les mains d'ennui immédiatement. Il n'y a rien là-dedans. Bon. Alors, il faut accepter d'accompagner. C'est le même problème que j'ai d'ailleurs actuellement avec les journaux de jeunes filles du 19e siècle. Tous les gens qui me passent des journaux de jeunes filles du 19e siècle me disent, vous savez, c'est abominablement ennuyeux. C'est démodé. Et c'est démodé quand on lit ce genre de texte. Les textes, ils sont démodés quand on en lit une page, quand on en lit deux pages. Et quand on accepte, en général, les gens même qui ont un instrument d'expression de leur vie parfaitement poncif et auquel ils se tiennent, arrivent à en tirer des effets tout à fait personnels, mais il faut accepter de les lire entièrement pour les comprendre. Comprendre les présupposés, comprendre les failles, les trous, etc. Donc c'est ce travail de relecture du texte que j'ai entrepris avec la collaboration encore d'un autre de jeune, Michel, mon père.
Ça tient une soirée Pessoa, finalement.
Oui. Et donc le père et le fils, l'arrière-petit-fils et le petit-fils se sont associés pour déchiffrer les grimoires trop convenus du grand-père et découvrir les failles de sa vie. Alors ça a donné lieu à un livre qui s'appelle Calico, publié en 1984 aux éditions Montalba, courageuses petites éditions historiques qui ont accepté de le publier. Et le livre est lui-même construit comme à la fois il redonne l'essentiel des textes de l'arrière-grand-père et en même temps il en présente une lecture. Le texte est accompagné par une lecture qui, à trois moments stratégiques du livre, aide le lecteur à déchiffrer, à comprendre. Et c'est des endroits où, alors peut-être, mais avec des moyens complètement différents et pas du tout le même travail d'écriture, ça n'a aucun rapport, mais dans un déchiffrement à la fois littéraire et historique, on essaie de voir, on a fait cet effort d'imagination, d'essayer de comprendre tout ce qui n'était pas dit dans le texte, de voir la vie minuscule, les drames horribles qu'il y avait dans la vie minuscule de Xavier Édouard, et surtout de voir au fond, ce sont des vies emboîtées les unes dans les autres, La vraie vie pathétique, le vrai mystère, le centre du livre n'est pas Xavier Édouard, mais la biographie de sa mère, dont nous avons découvert ce horrible secret de famille qu'elle avait fini la vie en sombrant dans la folie et en étant enfermée dans les asiles. Et c'est le noyau obscur de la biographie de sa mère qui est le cœur du livre.
Oui, quoique le cœur du livre, c'est peut-être la rencontre de Xavier Édouard avec le génie du christianisme, avec Chateaubriand. Oui, je crois que c'est plutôt là, parce que quels que soient ses mensonges, ce qui l'a poussé à faire ce journal, c'est pas tellement une justification de sa bâtardise et de la folie de sa mère que la rencontre, un jour, à 14 ans, avec Chateaubriand. Moi, je crois que le minusculaire de Calico est dans cette rencontre avec Chateaubriand, cette espèce de carambolage de la littérature apprise qui arrive à l'école laïque comme ça, et d'un tout petit homme qui tout à coup est...
Vous avez parlé des failles vous avez dû parler des failles du texte de Calico. En fait, c'est des failles de la vie dissimulées par le texte. Et le problème est de savoir s'il y a failles du texte. Enfin, si comment ça se joue entre les deux. Et c'est parce que c'est peut-être là la différence éventuelle. J'en sais rien entre Calico et Chateaubriand, par exemple, dont les failles de la vie sont nombreuses et qui sont aussi des failles du texte.
Alors le problème, là, c'est notre interprétation, c'est que la lecture de Chateaubriand. Il se trouve que c'était le génie du christianisme. En fait, nous ne savons pas s'il a lu après d'autres choses. Cette lecture arrive à un moment où c'est un enfant qui a 12 ans, 13 ans, qui reçoit comme prix le second prix de rédaction. Il était absolument incapable d'avoir un premier prix de quoi que ce soit, mais il a même eu le second prix de rédaction à l'école communale de la rue Montmartre. Et on lui donne donc le génie du christianisme. Et quand il lit ce texte, en fait, il est déjà quelqu'un qui a une vie brisée. Son livre, à 12 ans, il a en fait sa vie derrière lui, il a un paradis perdu, il a une faille, une rupture. À 10 ans, il a été arraché à la province. À la douce vie allant, il a été mis à Paris avec sa mère. Il est devenu